Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir, et je dois bien vous avouer que je suis un peu comme un gamin, de recevoir Marion Bûcher, qui est pilote de chasse. Oui, je sais, ça fait un peu tarte à la crème, mais en tant que garçon qui a adoré Top Gun, je trouve que, en tant que militant de l'égalité femmes-hommes, c'est important de recevoir ce genre de personnes, et surtout que Marion est également présidente d'une association qui travaille sur l'égalité femmes-hommes au sein de l'armée. Et donc, nous allons parler de plein de choses différentes, d'égalité femmes-hommes, bien entendu, de gestion de stress, de bien-être au travail et de beaucoup d'autres sujets. Bref, j'ai passé un moment formidable en parlant avec Marion et j'espère que vous de même, vous passerez un excellent moment. Bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Gaël.
Alors, traditionnellement, je commence par une présentation de mon invité. Mais là, je vais le faire un tout petit peu différemment. Si j'ai souhaité vous interviewer, je vais raconter une petite histoire personnelle. Je me promenais sur LinkedIn et là, je tombe sur votre profil. Marion Bûcher, pilote de chasse. Bon, là, en tant que membre de la génération Top Gun et militant de l'égalité femmes-hommes, je me dis « Waouh ». Et puis, je continue à regarder votre profil. Et je vois que vous êtes conférencière, que vous avez fait des études à HEC, London School of Economics, New York University, à la Sorbonne, que vous avez un master en psychologie cognitive et que vous êtes présidente de l'association avec les femmes de la défense. Et là, je me redis « Waouh ». Oui, je me suis dit « Waouh » deux fois en voyant votre profil. Donc, bref, je me dis « Il faut impérativement que je vous interviewe ». Donc, je vous ai contacté. Et je voulais vous inviter parce que votre profil et votre parcours forcent le respect. Et j'ai 1000 questions à vous poser. Alors, malheureusement, comme vous le savez, nous n'avons pas le temps de vous poser 1000 questions. Mais je vais commencer par une question toute simple sur votre engagement pour la cause des femmes qui a l'air d'être très présent actuellement. Puisque vous êtes présidente de « Avec les femmes » de la Défense. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter cette association rapidement et m'expliquer le pourquoi de cet engagement ?
Alors, Avec les femmes de la Défense, c'est une association qui a été créée en 2016. Il s'avère que tous les grands ministères sont dotés d'un réseau féminin. Alors, j'aime pas trop cette formulation, mais c'est celle qui est plutôt en vogue. Et donc, c'est Jean-Yves Le Drian qui avait approché... notamment Chantal Roche, qui était colonel, qui est passé général ensuite et qui a été la première présidente, pour que le ministère de la Défense à l'époque se dote également d'un réseau. Alors, nous sommes un réseau qui œuvre en faveur de la mixité, c'est-à-dire d'avoir une représentation dans nos rangs qui soit à peu près celle... de la population française.
Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, j'imagine.
Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des chiffres qui évoluent entre 15 et 25%. Alors, le service de santé des armées, par contre, a beaucoup plus de femmes. Mais sur les armes et directions, on a des taux qui sont plus faibles que les taux qu'on trouve dans la population générale.
Mais alors, l'image que le milieu militaire renvoie, c'est que c'est quand même très, voire trop masculin. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution ? Parce que ça fait 20 ans que vous êtes dans l'armée. Est-ce que pendant ces 20 années, vous avez vu une évolution, une tendance, ou c'est juste une sorte de gentille volonté, mais il n'y a pas vraiment de mouvement ?
Alors, en fait, je suis pas sûre que ce soit le milieu militaire qui renvoie une image masculine, mais plutôt la société qui a une image masculine du milieu militaire.
Oh, c'est intéressant. Alors, expliquez-moi.
Disons que quand je parle à des gens dans la société civile, ils ont une image assez masculine de ces métiers-là. Moi, ça m'est arrivé que une fois, je donnais une conférence sur la gestion du stress, et le conférencier derrière moi, on se rejoint juste avant la conférence et on commence à discuter avec la personne qui organisait. Puis le monsieur derrière moi me demande ce que je fais. Alors comme il allait bien savoir ce que je fais, je lui dis pas forcément, mais là je lui dis, ben je suis pilote de chasse. Et là il commence à me prendre de haut.
Pourquoi? Bon,
je passe mon chemin, et puis après nos deux confrères, il revient me voir et il me dit, je suis désolé pour tout à l'heure, mais je pensais que vous fichiez de moi. Donc mais c'est pas rare que, enfin j'en ai quelques-unes, des petites anecdotes comme ça. En fait, elles viennent souvent de gens qui sont pas militaires. Alors, ça veut pas dire que les militaires sont pas pareils, mais disons que pour moi, la question du genre des métiers, c'est pas une question qui vient des militaires ou des soignants, où il y a peut-être pas mal de femmes dans certaines spécialités, ou des coiffeurs, mais c'est plutôt la société qui a cette image-là. Mais
vous avez conscience, malgré tout, Marion, quand même, de faire un métier. Alors certes, c'est peut-être la société qui renvoie cette image de pilote de chasse égale forcément un homme, avec un petit H. Mais vous avez conscience que vous faites bouger les lignes, quand même, malgré tout, même si statistiquement, ça évolue.
Peut-être, mais en fait, ces lignes, elles sont pas... pour moi, elles ne sont pas déterminées par le milieu militaire. Alors, peut-être qu'en partie, et ça a été l'objet du plan mixité, on avait des modes de fonctionnement qui permettaient pas forcément aux femmes d'accéder aux mêmes responsabilités, notamment. Mais bon, on y reviendra certainement. Mais les premières femmes pilotes de chasse, alors si on compte pas Marie Marvin qui a œuvré pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, au bout d'un moment, en se cachant, et qui finalement a été interdite de vol au front. Mais la première promo, c'est 1946, c'est le général de Gaulle qui avait initié des promos féminines à l'école de chasse. Et les premières brevetées, c'est notamment Elisabeth Boselli.
Ah, j'ignorais complètement que c'était le général de Gaulle qui avait lancé ce mouvement.
Oui, oui. Et du coup, avec son départ du pouvoir et, je crois, l'accident de Maryse Pastier, l'expérimentation, enfin, c'est resté au stade d'expérimentation et ça s'est arrêté là. Mais Elisabeth Boselli, notamment, elle a quand même fait du Dewatin 520, qui est un avion qui a quand même des performances assez intéressantes. Donc, elles n'ont pas fait que de la liaison.
D'accord.
Bon, même si l'histoire est assez complexe, on va pas la développer là, mais pour les gens qui nous écoutent et que ça intéresse, ils trouveront ce qu'il faut sur Internet. Parce que l'Arbé de l'air a notamment relaté son histoire dans Air Actualité, le magazine qui est publié par le service de com de l'Armée de l'air.
Mais alors, pour revenir sur l'association avec les femmes de la défense, parce que de ce que j'entends, donc, et c'est extrêmement intéressant, donc il y a l'image que le militaire est masculin, et ça, effectivement, il suffit de regarder un film pour voir que, pardon, je vais être trivial, mais mis à part G.I. Jane, c'est vrai qu'on voit rarement des femmes militaires, alors que dans la réalité, ce que vous dites, bah, c'est pas l'armée qui finalement genre les métiers. Mais alors, quelle est votre mission avec les femmes de la défense? C'est quand même, il y a des lignes à faire évoluer, il y a des choses à changer, peut-être des comportements à changer. Si vous deviez dire en tant que présidente, quels sont vos deux, trois projets importants dans cette association, ça serait quoi?
Alors, c'est vrai que nous, même si ces éléments, ils sont peut-être déterminés dans la société dans laquelle on vit, ils sont quand même présents au sein du ministère. Et je pense que c'est tous les réseaux qui œuvrent pour la mixité essaient de s'attaquer à ça de l'intérieur. Et notamment, on va essayer de proposer certaines mesures. On avait été consulté en amont de la préparation du plan mixité, qui est le plan qui a été mis en œuvre pour favoriser la mixité dans les armées. Donc, on avait proposé un certain nombre de mesures. Parce que même si, moi, je pense qu'il y a un déterminisme social dans cette affaire, une femme officier, en moyenne, elle reste 12 ans de moins qu'un homme officier dans l'institution. Donc,
est-ce qu'il s'explique par quoi, pardon?
Alors, ça va être plus mon opinion personnelle, mais... je pense que il y a déjà des spécificités liées au milieu qui demandent une grande disponibilité avec des gens qui sont mutés souvent, donc vous êtes parfois loin de votre famille, de gens qui pourraient vous aider à, pour tout ce qui est garde des enfants en cas d'absence. Donc ça vous demande une organisation qui peut devenir un vrai casse-tête. Alors encore en plus, quand vous êtes mère mais ou père célibataire, parce que ça touche, ces problèmes-là touchent statistiquement plus les femmes, qui ont statistiquement plus la garde. Mais moi, j'ai eu des collègues qui étaient pères célibataires et qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi.
Mais ce qui est assez fascinant, Marion, c'est que ce que vous décrivez, finalement, parce que, très honnêtement, avant de vous parler, je m'imaginais l'armée comme un truc hyper macho, très masculin et avec des problématiques très amplifiées par rapport à l'entreprise. Mais ce que vous décrivez, finalement, c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises de façon générale.
Ah oui, moi, je pense qu'on a, on a exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Alors, avec des arguments qui peuvent être différents sur la question de savoir si une femme peut aller au combat ou parfois des questions qui sont... On évolue quand même dans un milieu un peu particulier, dans, sur des, parfois en opération, où ben, on n'a pas la même... les mêmes possibilités matérielles d'avoir des environnements, par exemple, séparés pour certaines, pour les douches, pour ce genre de choses.
Oui, complètement. Ça, en fait, ça n'avait pas du tout été préparé à la mixité, en fait.
Bah, c'est surtout que c'est plus compliqué que quand vous êtes en métropole.
Mais alors, Marion, pardon, j'ai une question qui me vient comme ça en vous parlant. J'ai deux, trois questions stupides, donc vous me pardonnerez mon côté candide et béotien total, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir militaire? C'était quand vous étiez enfant? C'est venu plus tard? C'est une motivation d'engagement pour son pays? C'est vous avez vu Top Gun et vous êtes dit, moi je vais être Tom Cruise? Enfin, je sais, qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est certes, c'est l'image de la société, mais vous en tant que militaire et les femmes en tant que militaire, c'est vrai que c'est pas dans l'inconscient collectif. Et donc, vous, bah, vous êtes un peu à l'avant-garde. Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation à l'origine?
Il s'avère que moi, je voulais être médecin depuis que j'étais toute petite et jusqu'à mon adolescence. Et puis, j'ai fait mon baptême de l'air. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'avais envie de faire pilote. Mon instructeur était un ancien militaire de l'armée de l'air. Et donc, lui... un peu prêché pour sa paroisse aussi. Mais après, je pense qu'il y a quand même dans ce métier un sens de l'engagement qu'on n'a pas forcément ailleurs et qu'on retrouve aussi en médecine. Donc, il y avait cette idée aussi. Mais c'est vrai que c'est... je me suis dit, ben, je peux tenter de faire pilote de chasse et si je rate, faire médecine, alors que je pouvais difficilement faire l'inverse. Donc, les deux vocations me plaisaient, j'ai choisi cet ordre-là.
D'accord. Et donc, en fait, c'est le hasard d'une rencontre qui vous a envoyé dans un avion.
Oui, ben, mon père qui m'a fait faire mon baptême, et puis ensuite, j'ai eu envie d'apprendre à piloter. Et donc, ensuite, de toute façon, je pense que c'est... c'est l'histoire un peu de tout le monde aussi.
Bah, oui et non, parce que vous pouvez avoir envie de piloter, et c'est un tout petit peu différent de vouloir piloter un 747 ou un avion de chasse. Enfin, j'imagine, je ne sais pas, j'ai jamais piloté un avion, mais l'engagement n'est pas le même.
Non, c'est sûr, c'est pas du tout le même métier. Ensuite, mais c'est vrai que... moi, je gérais ça en fonction de priorités, avec des priorités en fonction de ce qui m'attirait.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, pour rester dans les airs, vous avez été pilote de chasse, et vous l'êtes encore, je crois. Est-ce que vous êtes déjà retraité ou pas encore?
Non, pas encore, mais presque.
Presque. Ça, je trouve ça ça, c'est quand même quelque chose qui est fascinant, parce que c'est vrai que ce sont des métiers où la retraite arrive jeune, parce que forcément, c'est un tout petit peu plus engageant que d'autres métiers. Et donc, Happy Work, quand même, parle avant tout de bien-être au travail. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le bien-être au travail pour un pilote de chasse, parce que j'imagine que le niveau de stress doit être incroyable, qu'en termes de physique, bah, vous devez être en permanence au top. Est-ce qu'il y a du bien-être au travail dans l'armée? Alors, pas dans l'armée en général, mais pour un pilote de chasse. C'est quelque chose auquel vous prêtez attention?
Alors, les armées ont un programme de gestion du stress qui prend en compte ce genre de questions. qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel. Donc, il y a évidemment, quand vous êtes confronté à une situation stressante, vous allez naturellement essayer de vous y adapter et donc vous allez développer vous-même vos propres mécanismes pour ça. Mais là, les armées ont développé des techniques spécifiques pour essayer de donner des choses qui marchent aux gens. Et ensuite, et là on en revient à l'association, il va y avoir tout l'environnement autour, le fait de concilier vie de famille, vie professionnelle, le fait de répondre à certaines problématiques qui sont spécifiques chez nous, notamment l'absence.
Bien sûr.
Et donc ça, par exemple, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de pousser au niveau de l'association.
Mais, l'association, donc en fait, ça fait le lien par rapport à votre expérience, l'association va essayer de gérer et d'améliorer ce bien-être-là, mais je reviens sur la question initiale, j'arrive à conceptualiser ce que c'est le bien-être au travail pour quelqu'un qui va travailler à la défense. Ça, je le vois bien. Et je vois les leviers sur lesquels on peut agir. Alors, certes, vous travaillez dans ce qu'on appelle la grande muette, mais justement, on ouvre un petit peu le rideau en vous parlant. Comment est-ce que le bien-être est traité pour un militaire ou justement, moi, en tant que citoyen, j'ai le sentiment que c'est un peu le dernier des soucis, dans le sens où il y a la notion de combat, d'engagement. Est-ce que la question du bien-être, et là on parlera du stress après, mais est-ce que la question du bien-être est un sujet pour vous individuellement et pour l'institution en tant que telle?
Oui, parce que forcément, l'implication sur la capacité à combattre, elle est importante. Donc, d'où le plan famille, par exemple.
Ok.
Donc, le ministère réfléchit à ça. Alors, je vous jure, ils ne m'ont pas payé et vous parlez de la grande muette, mais pour le coup, l'armée, c'est la grande muette parce que les militaires ont été les derniers citoyens à avoir le droit de vote, mais pas du tout, parce que on a une culture du secret. Et d'ailleurs, alors, moi,
pardon, Marion, je vous interromps tout de suite. Je ne savais pas, c'est quoi ça? Les militaires n'aient pas le droit de vote?
Ah oui, jusqu'en 48, il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises.
Ah bah alors, je découvre et je tombe de ma chaise. Si vous entendez un grand bruit, c'est que je viens de tomber de ma chaise. Ah, je l'ignorais, bah merci pour cette info. Je ne savais pas du tout.
Voilà, c'est de là que ça vient, en fait, pas du fait que les gens cachent particulièrement. Et d'ailleurs, pour cet entretien, j'ai, en tant que présidente de l'association, je n'ai pas eu à demander l'autorisation, vu que je vais respecter le devoir de réserve.
Bien sûr, et puis c'est pas tout à fait l'état d'esprit de Happy Work de vouloir taper sur des institutions qui sont quand même assez extraordinaires. Je crois pas que je vous ai déjà remercié d'accorder cet entretien, donc je vous remercie encore une fois, et sans révéler des secrets défense, bien entendu. Dans les questions que je vais vous poser, c'est, on parle souvent de stress au travail, et c'est vrai que quand je m'imagine, vous, en mission, ou quand je vois des terrains-guerre, je me dis, ok, en termes de stress, aller travailler à la défense, ou moi, ce que je fais, d'aller dans mon bureau, faut quand même relativiser la notion de stress, parce que c'est votre vie. Enfin, y a pas besoin de faire de dessin. Quand on commence à mettre sa vie en danger pour défendre une cause ou un intérêt ou quoi que ce soit, c'est pas tout à fait le même stress que est-ce que le produit pour lequel je vais faire le marketing va marcher ou pas. Mais est-ce que vous avez justement des petits conseils sur la gestion du stress qui pourraient s'appliquer à la vie de quelqu'un qui fait du marketing ou quelqu'un qui fait de la compta, mais qui sont issus de votre métier de pilote de chasse ou de votre vie professionnelle en général?
Alors, en simplifiant à l'extrême, ce qu'on utilise, nous, on se réfère pas mal aux approches transactionnelles du stress. Et donc, en gros, on fait à tout moment une évaluation entre les ressources internes qu'on perçoit pour faire face à une situation et les demandes qu'on perçoit de cette situation. Donc, en gros, quand on perçoit qu'on n'a pas assez de ressources pour faire face à une situation, qu'on trouve extrêmement difficile, on stresse. Donc, dans les méthodes, il peut y avoir déjà une évaluation plus fine de ses ressources, ou alors le fait d'augmenter ses ressources. Et c'est ce qu'on fait avec l'entraînement. Donc effectivement, on est soumis à des situations stressantes, mais on dit entraînement difficile, guerre facile, par exemple. Donc l'idée, c'est de répéter énormément, de mécaniser tout ce qui peut l'être, et puis aussi d'apprendre à s'adapter dans des situations complexes.
En fait, c'est de la gestion des émotions poussée à l'extrême, c'est ça ?
Alors, il y a de la gestion des émotions, mais aussi de la technicité.
Parce que, d'accord, c'est d'avoir des mouvements et des réflexes qui deviennent, enfin des gestes techniques qui deviennent des réflexes qui vont arriver même si l'émotion est extrême.
Oui, par exemple. Après, ça va être aussi définir des priorités et les gérer et puis être capable de déléguer certaines choses ou d'abandonner certains items qui ne sont pas forcément prioritaires. Mais, et ça, ok, c'est le stress du combat. Mais après, il y a tout le reste, c'est-à-dire le stress de la vie quotidienne ou la gestion de la base arrière. Et voilà. Et là, c'est par exemple ce qu'on essaie de promouvoir avec l'asso. Mais on est soumis, au combat et dans les situations à l'étranger, en engagement opérationnel, d'ailleurs pas forcément à l'étranger, puisqu'on est aussi engagé sur le territoire national, mais il peut y avoir un stress qui est dû au métier, mais ça, on l'apprend aussi. On apprend à le gérer à l'entraînement, et grâce aux techniques d'optimisation du potentiel qu'on se bute. Et puis, la gestion de stress que nous, on essaie de pousser aussi avec les femmes de la défense.
Mais vous avez conscience, Marion, ou pas, que vous faites un métier très atypique ? Je disais en introduction qu'il force l'admiration. C'est même pas une question d'admiration, c'est que par rapport à 99% des gens, vous faites un métier de barge, ou pas ? Ou pour vous, c'est pas différent finalement que de faire un métier lambda ?
Alors, c'est un peu différent dans les exigences que ça demande, mais là où c'est pas forcément différent, c'est qu'il y a, quand même un paquet de métiers. Enfin, je veux dire, pilote de chasse n'est pas le métier unique. Déjà, dans les armées, on trouve...
Ah non, dans les armées, bien sûr.
Voilà, tout un tas de panels de métiers qui sont quand même exigeants et dont les enjeux sont importants, mais vous avez d'autres métiers aussi, tous les métiers de la sécurité.
Bien sûr, les policiers, les gendarmes.
Policiers, enfin, voilà. Gendarmes, vous avez les métiers de la santé aussi, où vous avez quand même, vous pouvez avoir la vie de gens entre vos mains. Et puis, vous avez aussi des métiers plus classiques. Enfin, moi, je suis administratrice de la caisse de retraite des anciens combattants. On gère quand même 12 milliards d'euros de wow. d'actifs, de gens qui nous ont confié leurs économies pour pouvoir s'assurer une retraite et paisible. Donc, c'est pas les mêmes, ce sont peut-être pas des enjeux vitaux, mais par contre, ce sont des enjeux financiers qui peuvent avoir un énorme impact sur la vie des gens. Donc, si on commence à englober tout ça, et on l'a vu pendant le confinement aussi, y a des gens dont on était quand même heureux qui puissent et qui font pas des métiers qui sont connotés comme tel socialement, mais tous les métiers essentiels, tous les travailleurs essentiels, on les a vus. Donc en fait, là encore, on revient sur une vision sociale des métiers qui est peut-être un petit peu trop caricaturale.
Oui, complètement. Mais j'ai trop été marqué par Top Gun, c'est ce qu'on se disait au téléphone en préparant ça. C'est vrai qu'il y a une image, malgré tout, qui est renvoyée par la société, et c'est pour ça que c'est très intéressant de parler avec vous. Et en plus, vous faites plein de métiers, il y en a un que je connais bien, puisque vous êtes également conférencière depuis 6 ans, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Vous parlez de quoi en conférence ?
Principalement des questions de gestion du stress, gestion de la charge mentale, ensuite la motivation. On m'a demandé aussi de parler de résilience de temps en temps. En fait, disons qu'avec le Master 1 que j'ai passé en psycho, les gens ont des problématiques et moi j'essaie de raccrocher ça à des concepts théoriques et ce qu'on peut trouver dans la littérature en l'illustrant avec des anecdotes qui viennent de mon métier.
Donc vous zénifiez les gens en fait ?
Je sais pas. Mais disons qu'on discute de choses qui peuvent leur poser problème.
Ah ben c'est super. Alors Marion, on arrive à la dernière question et comme d'habitude, je vous ai fait travailler. Alors j'espère que vous avez bien travaillé. Parce que à chaque fois, je demande quelle est votre citation ou votre mantra préféré et pourquoi ce choix. Avez-vous bien travaillé, Marion ?
En fait, j'ai pas une citation. J'ai un livre qui contient lui-même plein de citations. Ce sont les vertus de l'échec de Charles Pépin. Mmh. Et donc, il cite pas mal de gens, Benjamin Franklin, notamment. Et je trouve que ça... J'ai bien aimé ce livre parce que ça m'a aidé à me lancer des challenges dans la vie sans forcément me mettre la pression. Et donc, et quand on parle de stress, et ben justement, ça m'a permis de diminuer cette demande perçue de la situation en me disant qu'aussi, bah, si j'échouais, ce n'était pas forcément très très grave et que je pourrais très bien m'épanouir dans autre chose.
Oui, la relation à l'échec, c'est vrai que ça permet de beaucoup relativiser et de se lancer probablement en réduisant son niveau de stress.
Oui, et ça, ça aussi, dans l'association, on a un gros programme de coaching et de mentoring parce qu'on essaie aussi de travailler sur cette question qui a parfois été mise en évidence dans certains travaux universitaires sur la question de ce que les femmes peuvent s'autoriser à faire ou pas, et que dire qu'on n'a pas accès aux mêmes choses, c'est certes vrai et ça a été montré dans la littérature, mais encore faut-il aussi essayer de les atteindre. Donc on permet aussi aux gens, et d'ailleurs je dis aux femmes, mais c'est ouvert à tous, on est une association mixte, on a 10% d'hommes. Et toutes nos animations tous nos événements sont accessibles à tous nos adhérents. Et donc, on a ce projet de coaching et mentoring.
Ben super. Ben écoutez, Marion, je n'ai pas de mots pour vous remercier suffisamment. Merci pour ce moment formidable. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous souhaiter plein de réussite dans tous les projets que vous avez, puisque j'ai l'impression qu'on n'a même pas parlé de la moitié de tout ce que vous faites, donc peut-être qu'on se recroisera un de ces jours sur ces mêmes ondes. Je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation et à très bientôt, Marion. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup, Gaël, et merci de nous avoir, au nom de l'association, de nous avoir permis aussi de parler de ce qu'on fait et de pouvoir parler des problématiques qui nous tiennent à cœur.
Avec grand plaisir. Bon, c'est dans la boîte, super. C'est... Oh.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.